L'hypertension artérielle pulmonaire, en abrégé HTAP, est une maladie grave, évolutive et invalidante, source de lourds handicaps dont les soins sont contraignants. Elle se caractérise par une élévation anormale de la pression sanguine au niveau des artères pulmonaires. La spécificité des symptômes entraîne souvent un retard de diagnostic, mais malgré sa faible prévalence et des traitements médicaux d'efficacité encore modeste, cette maladie rare intéresse les chercheurs qui ne cessent d'améliorer le confort et la durée de vie des patients. Derrière l'Angleterre, la France est honorablement positionnée à la pointe de ses travaux. En 2005, à l'âge de 42 ans, Philippe Chauveau, remarquable photographe amateur et copropriétaire de l'auberge du Point Sublime, dans les Gorges du Verdon, est atteint par ce handicap. Il commence alors un parcours long et douloureux, soutenu par son épouse Magali. Après avoir reçu une greffe aujourd'hui, il peut à nouveau s'adonner au sport, mais avec modération. C'est dans un élan de générosité que ce week-end, il a organisé en collaboration avec l'association castellanaise Cap Verdon, Montagne et Partage, une manifestation pour informer la population et réunir plusieurs associations. Dans ce reportage réalisé par Véronique Hermand, vous entendrez Philippe et Magali qui témoignent des épreuves qu'ils ont traversées et dépassées ensemble. Vous pourrez écouter également Jean-Louis Caribou, président de Handicap Évasion 04, puis Jean-Marie Balland, vice-président de France ADOT, la Fédération des associations pour le don d'organes et de tissus humains, et également Lorraine Pilastre pour l'association HTAP France. Je vous propose d'écouter Philippe.
L'année dernière, j'avais refait le sentier Martel pour la première fois depuis que j'étais transplanté. C'était la journée du 17 octobre. J'ai refait pour la première fois le sentier Martel. Je m'étais dit l'année prochaine, c'est-à-dire cette année, il faut que je refasse quelque chose, une randonnée avec beaucoup plus de monde. Et il m'est venu l'idée d'organiser quelque chose pour des personnes qui étaient en difficulté physique. Et j'ai fait appel à Virginie Copin et sa nouvelle association, Cap Verdon Montagne et Partage. Voilà comment est née ma journée. Mon histoire de greffé, j'ai été atteint d'hypertension artérielle pulmonaire. C'est une maladie invalidante qui peut entraîner la mort. Et dans la plupart des cas, on est transplanté, bipulmonaire ou cœur-poumon. J'ai été greffé en super urgence parce que mon état était jugé critique à l'hôpital Marie-Lannelongue, au Plessis-Robinson, en décembre 2012. Et depuis, tout va bien, je suis en forme, je vis une vie à peu près normale. Le rôle des dents est peut-être plus compliqué que celui du malade.
Comment avez-vous sélectionné les associations qui sont présentes aujourd'hui ?
L'association de Castellane, Cap Verdon, Montagne et Partage, ça me semblait évident. C'est une nouvelle association, ils ont besoin d'être reconnus. Puis Handicap Évasion 04 qui s'est proposé avec des Joëlettes. France ADOT 13, une association qui parle du don d'organes, me paraissait aussi indispensable. Et HTAP France, évidemment, l'association qui s'occupe des malades d'hypertension artérielle pulmonaire. Ils s'occupent des aidants et tout ce qui est administratif pour les démarches.
Comment s'est passée cette journée ?
Apparemment, il y a une bonne ambiance et je suis assez content. Le plus dur, c'est de faire venir les patients malades. C'est le plus compliqué.
Lorraine Pilastre, administrateur de l'association HTP France. Quel est le but de cette association ?
Cette association vient principalement en aide aux patients et familles souffrants qui sont atteints d'hypertension artérielle pulmonaire. L'association a vocation d'aider tous les malades et patients souffrant d'hypertension pulmonaire et aussi ceux qui ont été transplantés suite à une HTP.
Vous les suivez par quels moyens ?
On a divers moyens d'action, principalement par la voie de la médiation Internet, HTAP France. Nous avons également un profil Facebook. On a ces médias en fait qu'on utilise pour sensibiliser les personnes, des campagnes de sensibilisation, des manifestations sportives, des rencontres régionales, une assemblée générale qui a lieu tous les ans. Et on a créé un magazine qui s'appelle Le Cap Vert. Puis des brochures et des affiches, des tracts. C'est essentiellement nos moyens d'action.
Quelles sont les demandes des personnes qui sont atteintes ?
Premièrement, c'est quand il s'agit de reconnaître le statut de personne en situation de handicap. Donc il y a toute une démarche à faire au niveau de la MDPH qui, selon les régions, n'est parfois pas simplifiée. Notre aide, elle est premièrement administrative, en lien aussi avec une aide psychologique et sociale face à l'annonce d'une maladie. Déjà dans la reconnaissance du handicap. Et après, on intervient aussi dans des soutiens à la vie quotidienne. Comment vivre avec une HTP? Souvent, des personnes atteintes sont donc adhérentes à l'association et sont à même de proposer des solutions pour aider à la vie quotidienne. Pour l'association, les dons sont nécessaires pour faire évoluer nos actions et surtout pour permettre la sensibilisation au grand public. Une partie de nos dons sert au fonctionnement de l'association et une partie chaque année est donnée au centre de recherche l'INSERM pour l'HTAP, car à ce jour, l'HTAP est la seule maladie rare qui bénéficie de 10 traitements, donc qui ne permettent pas de soigner la maladie, enfin qui soignent la maladie mais qui ne la guérit pas, puisque la seule guérison possible est la greffe cœur-poumon ou la greffe bipulmonaire. Durant les 20 années d'existence de l'association, nous avons vu la mise en place de 10 traitements curatifs, mais qui ne guérissent pas l'HTAP, d'où l'importance des dons pour continuer cette vocation de la recherche médicale, pour guérir l'HTAP.
Vous êtes très jeune, qu'est-ce qui vous a amené à vous investir dans cette association ?
J'ai 30 ans, j'ai adhéré à l'association il y a maintenant 6 ans, car ma mère était atteinte de l'HTAP. Elle a été diagnostiquée en 1997 et l'association a été créée en 1996. Ma mère, à l'annonce de sa maladie, a de suite adhéré à l'association et a été correspondante régionale à l'époque. Donc j'ai été un peu baignée dans ce berceau associatif et par la suite j'ai eu envie d'être moi-même membre active. C'est pour ça que j'ai postulé au conseil d'administration. Et puis c'est pour continuer surtout le combat parce que ma maman est décédée là cette année. Il faut toujours rester positive et puis se battre pour ceux qui sont encore là et puis pour que la maladie soit connue.
Jean-Marie Balland, vice-président de France ADOT.
Notre association au sein du département des Bouches-du-Rhône fait des interventions dans les lycées, les collèges, les écoles d'infirmières, hôtelières et tout public, par exemple les CIQ qui ont envie qu'on vienne parler du don d'organes. Ces interventions étant gratuites, elles peuvent durer ou une heure et demie ou deux heures, où nous parlons des dons d'organes, des dons du sang et dons de moelle osseuse. Aujourd'hui, donc samedi 15, nous sommes venus parce que nous avons reçu une invitation de la part de Monsieur Philippe Chauveau, qui a été greffé des bipulmonaires, donc des deux poumons. Et cette intervention et cette générosité a été donnée par une famille qui, malheureusement, a perdu quelqu'un de proche. Et cette famille a donné l'autorisation de prélever les organes, ce qui est très important, parce qu'il faut savoir qu'en France, en 2015, 21 700 personnes sont sur la liste d'attente, 5 700 ont été greffées, et malheureusement, entre 500 et 600 personnes meurent parce qu'elles n'ont pas eu de greffon. C'est pour ça qu'on lance un cri d'alerte, parce qu'il nous faut de plus en plus de donneurs. Malheureusement, on a toujours depuis des années et des années le même taux de refus. Ça tourne autour de 35%, ce qui est important. On n'arrive pas à faire diminuer ce taux. Un petit pourcent en moins ou 2% en moins, ça ferait 100, 200 personnes de plus qui auraient la chance de vivre avec ce nouvel organe donné par une famille qui aura donné cette autorisation de prélever pour faire vivre d'autres personnes derrière. C'est ça qui est important. On ne peut pas imaginer que des personnes attendent et attendent pendant des années, des mois, parce qu'on a les possibilités toujours quand on a un problème au rein d'avoir des dialyses, un problème au cœur d'avoir toujours des petits respirateurs artificiels, aussi bien pour les poumons, mais après, par exemple, le foie, il nous faut un organe. Si vous n'avez pas d'organe, très rapidement, ben, la personne va mourir. Donc c'est ça qui est important. Il faut y penser en amont. C'est pour ça que, bon, comme M. Philippe Chauveau m'a invité, et que lui étant greffé, il a besoin de faire parler de sa greffe, il a besoin d'expliquer le cheminement qu'il a eu. On a répondu présent, France ADOT 13, on est là pour dire aux gens, positionnez-vous, c'est ça qui est important. Il faut dire, je me positionne, pour le oui, pour le non, mais positionnez-vous. Pour le oui, ben, on peut prendre une carte, d'abord on en parle à sa famille, on dit, ben voilà, je me suis positionné, je veux parler, je veux savoir que mon corps sera utile après ma mort, je veux donner mes organes. Et pour confirmer tout cela, eh ben, on prend une carte de don d'organes. Et après, on va dire à la famille, ça y est, je l'ai cette carte, ça va vous soulager dans un moment où vous n'aurez pas à prendre une décision de ce type, parce que c'est important. La mort est tellement brutale. Cette mort encéphalique où on va montrer le corps à la famille et ce corps va être chaud, il va avoir les poumons qui vont fonctionner, on va avoir le cœur qui va fonctionner aussi, mais on va avoir sur les scopes, on va toujours avoir des chiffres. Donc, les personnes, la famille qui vient voir ce mort, dont la mort est irréversible. Cette personne pense qu'elle est encore vivante, mais il est mort. Et ce n'est que grâce à la machine, grâce à cette assistance artificielle, que cette personne peut vivre encore pendant 24 heures. Et pendant ce laps de temps, on fait des tests sérologiques, on voit la famille, on appelle l'agence de biomédecine à Paris qui peut dire si la personne est inscrite ou pas sur le registre de refus de don d'organes. Et ensuite, c'est la famille, au vu de la carte ou pas la carte, qui va prendre la décision. Il faut bien se dire que la carte va soulager, mais en même temps va permettre à la famille de dire, ça y est, elle s'est positionnée. Pourquoi aller à l'encontre? Parce qu'on l'a aimé, on l'a chéri pendant des années. Maintenant qu'il a cette carte, c'est plus facile de dire, on accepte qu'on prenne et qu'on prélève les organes pour faire vivre d'autres personnes. Ce n'est pas un moment facile, parce que la mort d'un proche n'est jamais facile. De donner les organes, on est toujours d'accord pour soi. Mais quand c'est une maman ou quand c'est un père qui va dire, tiens, je vais donner l'organe de mon fils ou de mon petit enfant, parce qu'on greffe à tout âge. On a pris des organes sur une personne de 88 ans et on peut greffer jusqu'à 75 ans. Mais on a pris aussi des greffes sur une petite fille, un petit garçon qui avait 7-8 mois. Et on l'a donné à un bébé, à un nourrisson ou à un bébé de 7-8 mois. C'est ça qui est important. Donc, à se positionner dans ce sens-là, se dire peut-être qu'un jour je vais être receveur. Et si je veux recevoir, il faut quand même donner. C'est notre grand slogan de France Adopte 13, donner, c'est recevoir derrière.
Pour quelles raisons vous vous êtes impliqué dans cette association?
Alors, je ne suis pas du tout greffé. Il m'est arrivé de rencontrer dans ma vie précédente d'actif, maintenant étant retraité, un ami qui avait, il y a une quarantaine d'années, été dans l'obligation de choisir et de prendre une décision, se retrouvant tout seul devant un enfant de 15 ans qui avait eu un accident de cheval. Le cheval avait refusé l'obstacle et son fils était passé au-dessus de l'obstacle. Il a eu une rupture du cervelet et de ce fait, après une quarantaine d'années en arrière, on lui a dit, tiens, est-ce que vous acceptez qu'on prenne les organes de votre fils ? C'est un moment très dur pour lui parce que bien des fois dans les pays très lointains, on s'est retrouvé à parler de ça. Et là, j'étais là pour lui. J'étais là pour écouter cette problématique, écouter ce lourd fardeau qui tirait depuis des années. Et c'est resté dans un coin de ma tête. Et puis à la retraite, un jour, on m'a proposé à Marseille volontariat, on m'a proposé d'aller voir un président. On a discuté avec lui pendant 4 heures. Et puis, apparemment, ça, les deux se sont rejoints. Et j'ai dit, ça y est, banco, j'attaque et je me lance dans les dons d'organes.
Jean-Louis Caribou, président d'Handicap Évasion 04.
Nous organisons énormément d'activités sportives, culturelles, littéraires et artistiques, pour des personnes à mobilité réduite, et nous faisons jouer la solidarité entre personnes valides bénévoles et personnes handicapées. Nous organisons tout un tas d'activités à ce titre-là, et là nous avons été sollicités aujourd'hui par les organisateurs pour faire découvrir une de nos activités sportives, qui est la pratique de la randonnée en joëlette. La joëlette est un engin, c'est un siège qui est posé sur une roue. Il y a un brancard devant et un brancard derrière. Celui qui est devant tire, quand ça monte beaucoup, on en met deux. Donc il y a deux mules qui tractent. Et celui qui est derrière, il assure l'équilibre et il y a un frein. Et c'est lui qui assure la sécurité de la progression de l'engin. C'est la joëlette qui a été inventée par Joël. Joël, il habite à côté de Digne. C'est lui qui a inventé ça pour son neveu qui était myopathe et qui a trouvé que c'était génial et qui a appelé ça du nom de l'inventeur, joëlette. L'inventeur est à Digne, mais maintenant il y a des joëlettes un petit peu dans le monde entier, puisque chaque fois que nous avons un séjour que nous organisons à l'étranger, nous amenons des prototypes, surtout dans les pays en voie de développement. Par exemple, au Pérou, nous avons organisé un trail de 15 jours. Il y a des joëlettes. Au camp de base de l'Everest, pareil. À Madagascar, nous avons organisé 15 jours dans la brousse, pareil. En Turquie, pareil, etc., etc. Donc maintenant, c'est un engin qui est assez connu. Ça permet de partager les joies de la nature, de la randonnée, de la montagne, entre personnes handicapées et personnes valides, en faisant jouer la solidarité. C'est un moment de partage et notre grande philosophie, l'idée sur laquelle on s'appuie, on rebondit, c'est le partage. Le partage de l'amitié, le partage de tout un tas d'activités. On est une équipe de copains, on est 145 en tout, dans l'association, répartie dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région PACA, dont l'essentiel est dans le 04, Manosque, Sisteron, Digne. Donc, Être présent aujourd'hui, c'était tout à fait naturel, puisque le but de la journée, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est de faire découvrir tout un tas d'activités de pleine nature que les personnes handicapées peuvent pratiquer grâce à tous les engins qui ont été créés à cette intention et grâce aussi au réseau de bénévoles qui gravitent autour de ces associations. Voilà pour Handicap Évasion, mais nous n'avons pas que des activités sportives. Alors aujourd'hui, on n'a pas pu les mettre en valeur, les mettre en évidence, mais c'est des activités culturelles, littéraires, artistiques, c'est du théâtre, c'est de la peinture, peindre la province de Giono, fabrication de vitraux. À partir de Manosque et dans tout le département, on a tout un tas d'animations. En moyenne, nous avons 2 animations par semaine, en moyenne, dans l'année.
Pourquoi vous faites ça personnellement ?
Parce que j'y trouve beaucoup de plaisir. C'est une association extraordinaire parce qu'elle est composée de gens extraordinaires qui viennent là parce qu'ils n'y trouvent aucune raison de faire valoir ou de promotion. C'est de la pure générosité. La plupart des associations sont des associations où il y a une équipe de dirigeants, puis après il y a des consommateurs. Nous, il n'y a pas de consommateurs, on partage. On partage l'amitié, on partage les joies de la montagne, les joies de jouer au théâtre, les joies de peindre la province de Giono, les joies de faire des vitraux, les joies d'entretenir le refuge que nous avons créé. Nous avons créé un refuge accessible aux personnes handicapées, c'est le refuge européen pour personnes handicapées qui se trouve dans la vallée de Lubaye. Le week-end dernier, on s'est retrouvés 13 à travailler pour entretenir ce refuge, pour faucher le pré qui était devant, pour faire la provision de bois pour l'hiver. Donc c'était un grand moment de partage d'amitié. Donc c'est une association extraordinaire, une association où on partage plein de choses et chacun partage ses passions et sa joie de faire profiter les personnes qui malheureusement ne sont plus autonomes de tout ce dont sont privées habituellement.
Intervention de Magali auprès de l'une de ses amies atteinte d'hypertension artérielle pulmonaire.
Alors quand on fait les pansements, il faut que les portes, les fenêtres soient fermées.
Et pas de mouvement.
Et pas de mouvement.
Et ça c'est la pompe que j'ai avec une cassette au bout que je fais tous les jours. Avec un produit qui m'envoie toutes les minutes. Et avant on changeait toutes les 2 heures et maintenant c'est 1 fois par 24. Voilà. C'est formidable.
Ça fait combien de temps que vous faites ce traitement ?
Alors, moi je suis diagnostiquée depuis janvier 2009, le 13 janvier, il y a des dates qui marquent. Et sinon la trithérapie, c'est-à-dire la pompe plus les 2 autres, j'avais déjà les 2 autres traitements, et sinon la pompe m'a été installée en 2006 pour le diagnostic et 2009 pour la pompe. Ça fait donc 7 ans là que j'ai la pompe.
On ne doit pas bouger, on ne doit pas parler.
Non, parce qu'on fait bouger les molécules, la poussière dans l'air. Pas de porte, pas de fenêtre qui s'ouvre, pas de mouvement.
S'il y a des animaux domestiques, comme c'était le cas chez nous dans la maison, allez hop, on les enferme, on les met dans une chambre, dans une autre pièce, et puis on fait le ménage. Avant, il faut mettre vraiment toutes les chances de notre côté.
Et même en faisant tout ça, on arrive à avoir des infections, ce qui est le cas pour moi.
Ça arrive souvent ? Ben là, toi, donc...
Moi, là, ça fait un mois que je traîne et...
Philippe, lui, son cathé a été changé en 3 ans, pour ainsi dire, 3 ou 4 fois, à cause des infections.
Moi, mon cathé, là, il a 2 ans et demi.
Oh, ils ont fait des progrès, dis donc, t'as vu un peu ? Nous, c'était pas des blouses comme ça, hein.
Il paraît, ouais, l'infirmier m'a fait des réflexions, il m'a dit, elles sont bien les blouses,
oui, hein. Nous, c'était toujours le bazar. On avait toujours les manches qui retombaient, là.
Voilà, il n'y avait pas l'élastique. Voilà, donc, hop, un petit coup de ça.
T'es prête ?
Oui.
Allez.
Ton mari aussi, c'était biceptine ?
Non.
Bétadine ? Alors, le protocole est le même. Hein. On passe un coup, on rince, on essuie et on repasse un coup. C'est pareil.
Alors toi, le protocole, le pansement, tu l'enlèves à main nue ?
Alors, je vais l'enlever. Toi, tu vas enfiler tes gants.
Voilà.
Tu vas me mettre une compresse sur le bord du champ.
Pour que tu me la...
Que je vais prendre. Et avec ça, je vais...
Non.
Et je vais enlever mon pansement sale avec. D'accord ? Comme ça, toi, tu touches que les trucs stériles. Et ensuite, ben, je te servirai pour les produits.
Voilà.
Compresse.
Comment vous avez fait ? Allez, t'es prête ?
Je suis prête.
nickel chrome.
Ouais. Pas de bulle, rien. Hop. Allez. Attends, je me défaisse.
Voilà. Donc j'ai fait ça comme il faut.
Ah ouais, t'as.
Tu vas pas m'engueuler parce qu'elle engueule son mari.
Oui, je. Ben oui, je suis bête.
Ben non, t'es pas bête, ça c'est. Philippe aussi, il était vachement.
Exigeant.
Ouais.
Ah ouais. Eh bien, je te remercie.
De rien.
Magali, vous venez de changer le pansement de votre ami. Vous avez fait ça pendant des années avec votre mari ?
Oui, en effet, j'ai fait ça avec Philippe pendant plus de 3 ans avant qu'il soit transplanté. Les infirmières passaient quand elles pouvaient, parce qu'on habite dans une zone rurale, c'est très compliqué. Et c'était aussi, de notre part, vraiment la volonté de pouvoir et savoir le faire avec les techniques appropriées au pansement, parce que c'est quand même un pansement qui n'est pas anodin, c'est une voie centrale qui est directement dans la peau. Donc il faut des règles d'hygiène très très strictes. Mais on tenait absolument avec Philippe à ce que je sois capable de le faire pour pouvoir être autonome, pas avoir des soigneurs à la maison tout le temps. Ça aurait été trop lourd pour nous. C'était une volonté.
Comment avez-vous vécu cette épreuve avec votre mari ?
Il y a eu des étapes plus ou moins difficiles. La première, la plus dure, ça a été le diagnostic, la compréhension de la maladie. Accepter, si on peut dire accepter, parce qu'on n'accepte jamais vraiment la maladie, mais vivre avec. Philippe disait toujours, c'est ma meilleure ennemie. C'était notre meilleure ennemie. Il fallait vivre le mieux possible et puis faire avec. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Pour moi, le plus dur a été le diagnostic. Quand le diagnostic a été posé, qu'on a su mettre des mots sur la maladie, pour mon mari, c'était l'hypertension artérielle pulmonaire, certainement suite à une sarcoïdose pulmonaire, on ne dit même pas une maladie, on dit un syndrome, parce que les médecins ne savent pas soigner non plus cette pathologie. Quand on a su mettre des mots sur ces deux noms barbares, les choses se sont beaucoup mieux passées. Et quand on a été tous les deux sur la même longueur d'onde, on a pu enfin commencer à parler de tout, sans tabou. Et les choses ont été beaucoup plus faciles à ce moment-là. Après, il y a eu des périodes très très difficiles parce que c'est des maladies évolutives. Donc on commence avec un médicament et puis après un autre médicament. Et puis après, la dernière étape, à l'époque de mon mari, c'était le Flolan. Il fallait faire la cassette toutes les 12 heures. Les soins que vous m'avez vu faire pour le pansement, ben, autant de fois que c'était nécessaire. Maintenant, on a de la chance, entre guillemets, d'avoir un nouveau traitement qui a une durée de vie de 24 heures, hein, le Vélitri, qui est quand même un confort inimaginable pour les patients HTAP, parce que beaucoup moins contraignant, on peut vivre un peu mieux avec la maladie, et ça, c'est énorme. Et puis après, Philippe, lui, ça a été la trithérapie qui n'était plus efficace, et puis là encore, des moments hyper difficiles à vivre, parce que la transplantation bipulmonaire en hyperurgence, ça a été difficile, mais il est là. Et avec tout ce qu'il fait aujourd'hui, bah, c'est génial. Et si on peut parler haut et fort du don d'organes, et de l'hypertension artérielle pulmonaire pour faire avancer les mentalités, surtout pour le don d'organes. Il faut savoir que le don d'organes, ça ne fait pas mourir que d'en parler. Le don d'organes, ce sont des morts violentes, hein, les donneurs, ce sont des morts violentes. Alors il y a déjà le choc du décès pour la famille, qui est terrible. Et puis dans la foulée, on vous demande si on peut aller prélever les organes. C'est des fois très très compliqué, c'est normal, on peut comprendre. On n'a pas le droit de juger les personnes qui refusent. De parler de la maladie, de parler du don d'organes, ça fait pas mourir, ça fait avancer les mentalités. Et si aujourd'hui, les personnes qui étaient avec nous à la manifestation qui a été organisée, si ça a permis à ces personnes de le comprendre, ben voilà, c'est ces personnes qui vont en parler à d'autres personnes. Il y a encore trop de gens qui meurent faute de don de la vie. Philippe était très sportif avant de tomber malade, il n'a plus pu exercer d'activité sportive pendant son hypertension artérielle pulmonaire, et quand il a été greffé, il s'est remis au sport. On habite une région très accidentée, et donc il adore faire du vélo, il adore faire de la marche à pied, mais Philippe me dit toujours, et il a complètement raison, que respecter son donneur, respecter la famille, c'est faire attention à son greffon, c'est-à-dire à ses poumons, et que quand il monte d'école à vélo électrique, ou quand il fait du vélo sans assistance électrique, ou quand il fait de la marche à pied dans le Verdon, il le fait toujours avec son matériel, c'est-à-dire il a une ceinture pour mesurer son rythme cardiaque. Le cardiologue, le pneumologue lui ont dit de ne pas monter à une fréquence
Il a une limite et il ne va jamais au-delà de cette limite parce qu'il dit que justement, avoir du respect, remercier son donneur, c'est prendre soin de son greffon.